Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Un mal de tête, une rage de dents, le dos qui se grippe avec les premiers frimas de l'hiver, ou pour ceux qui le peuvent encore, une gueule de bois, et nous voilà déjà dans l'armoire à pharmacie à la recherche du dernier cachet de paracétamol. Mais qu'en est-il quand la douleur s'installe, que le paracétamol et l'ibuprofène ne suffisent plus? L'arsenal thérapeutique des analgésiques n'étant pas infini, la douleur chronique rime malheureusement trop souvent avec opioïdes. Alors certes, tout le monde ne prend pas de la morphine, hein, mais d'autres médicaments ont fait leur chemin dans nos pharmacies à bas bruit. La codéine, le tramadol, qui à partir du 1er décembre prochain feront l'objet d'une ordonnance sécurisée. Pourquoi? Parce que selon une enquête menée par le réseau français d'addictovigilance, le nombre de personnes dépendantes qui ont désigné le tramadol comme premier produit ayant entraîné leur addiction a été multiplié par 17 en 10 ans. Alors le mécanisme est proche de celui d'autres drogues, non prescrites celles-ci, hein. Des prises un peu trop répétées, sur des périodes un peu trop longues, une tolérance à la substance qui s'installe alors que paradoxalement la sensibilité à la douleur, elle, augmente. Alors on augmente également les doses et la fréquence, et quand cela ne suffit plus, pour certains, pas tous heureusement, hein, on passe au palier supérieur. Là on parle d'oxycodone, de fentanyl, de buprénorphine. Cette histoire, elle a coûté la vie à plus de 800 000 Américains en 25 ans. Et ce qu'on appelle désormais la crise des opioïdes ne cesse de s'accélérer, puisque 82 000 personnes en seraient mortes entre février 2021 et février 2022, selon le Centre de prévention et de contrôle des maladies américain. Alors face à cette crise, que faire, puisqu'on ne peut décemment pas non plus laisser les victimes de douleurs chroniques souffrir sans solution? Le défi serait donc d'annuler ou de limiter ce phénomène d'échappement de l'efficacité des opioïdes et cette hypersensibilisation à la douleur qui conduisent à la longue à augmenter toujours plus les doses. Ce défi, notre invité l'a relevé. Il publie dans Nature Communication, avec d'autres collègues de l'INSERM et du CNRS entre autres, des résultats très prometteurs. Ce n'est pas son premier passage dans Allume la science et nous sommes très contents de le retrouver. Cyril Riva, bonjour.
Bonjour.
Donc bienvenue dans Allume la science. Vous êtes chercheur à l'Institut des neurosciences de Montpellier. Vous avez publié le 7 novembre dernier cet article intitulé en français « L'inhibition de la signalisation FLT3 supprime la tolérance aux opioïdes et l'hyperalgésie tout en préservant l'analgésie ». Alors, on va expliciter un peu tout ça dans les 20 minutes qui viennent. Elle aussi revient de manière chronique toutes les semaines sur votre antenne. À mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons sur la plateforme Symbio 3 qui synthétise des biomolécules et des polymères. Il s'agit d'une rediffusion, mais on est dans le thème. En fin d'émission, Florian Bergon, chargé de projet au service en diversité, nous présente une conférence grand public sur les régimes restrictifs. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors Cyril Riva, vos travaux portent plus spécifiquement sur la douleur chronique. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir à quel moment on parle justement de douleur chronique?
Oui, alors effectivement, c'est un point important par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc il y a une classification qui est déterminée par une grande association sur l'étude de la douleur, une classification internationale, qui définit une douleur chronique comme une douleur qui persiste pendant 3 mois, minimum 3 mois. Et donc, alors ça veut dire 3 mois, ça peut paraître court, mais
quand
on a mal, ça peut être très, 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 très long. Et c'est vrai que 3 mois, c'est le minimum, et on considère effectivement que la douleur va s'installer, et certains patients, effectivement, vont avoir des douleurs qui vont persister pendant, voire des années, et pour lesquelles, malheureusement, on n'a que très peu de solutions.
Alors parmi les solutions dont on va parler aujourd'hui, c'est les analgésiques opioïdes. Alors c'est pas des antidouleurs qu'on prescrit pour un simple mal de tête. Dans quel cas est-ce que c'est normal que votre médecin vous prescrive des opioïdes ou c'est courant?
Alors c'est vrai qu'on a eu pendant très longtemps en France une tendance à pas trop prescrire ces molécules-là, puisqu'on les connaît un petit peu pour leurs effets néfastes et délétères, notamment tout ce qui est accoutumance et dépendance. Et donc il y a eu une grosse politique qui a permis d'améliorer la prescription des opiacés. Et donc c'est vrai que ces molécules-là sont prescrites généralement dans le contexte de la chirurgie, par exemple. C'est un domaine dans lequel on va avoir une grosse prescription d'opioïdes pendant la chirurgie et en post-opératoire. C'est vrai qu'il est commun d'avoir de la morphine en post-opératoire. laboratoire. Et comme vous le disiez en introduction, c'est vrai que maintenant on a des molécules, des dérivés de la morphine qui sont utilisées, notamment comme la tramadol, qui est effectivement maintenant, alors pas surprescrit, mais qui est prescrit un petit peu plus facilement, on va dire, pour quand même des douleurs qui sont considérées comme modérées à sévères. D'accord ? C'est vraiment la ligne de conduite par rapport à la prescription de ces molécules-là. Mais peut-être que maintenant il y a une tendance, en tout cas c'est ce qu'on voit aux États-Unis, à une surprescription de ces molécules-là, des fois même pour des petites rages de dents, on va vous prescrire des fois des molécules dérivées de la morphine. Donc c'est là où effectivement il faut faire attention par rapport à ce modèle de prescription. Et donc le décret qui va limiter cette prescription, je pense, est le bienvenu.
Alors ces opioïdes, justement, ils agissent comment ils parviennent à limiter ou supprimer la douleur?
Donc en fait, ces molécules-là vont agir sur des sortes de serrures que l'on a dans le système nerveux, dans l'organisme, et donc ils vont bloquer ces serrures-là, tout simplement. Donc ils vont empêcher la transmission de l'information douloureuse au niveau de notre système nerveux, et donc et empêcher qu'il y ait la transmission jusqu'au niveau de notre cerveau.
Donc on l'a dit en introduction, un des gros problèmes de ces médicaments, c'est qu'ils ont une efficacité décroissante à long terme. Il y a un phénomène de tolérance, c'est bien ça? Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on y a recours dans le cadre de douleurs chroniques? Ça semble paradoxal.
Alors c'est vrai que c'est paradoxal, mais il ne faut pas oublier que la morphine marche en fait, d'accord? C'est quand même un point important à souligner ici, c'est que tout le monde ne va pas réagir de la même façon, il y a une variabilité interindividuelle, on le sait très bien, et donc la morphine marche chez une grande majorité des patients. Il y a des effets secondaires associés qui sont autres que le phénomène de tolérance et d'hyperalgésie, donc c'est les phénomènes par exemple de nausées, vomissements et de constipation qui sont les effets secondaires les plus importants, mais la morphine marche, je pense que c'est un point important à souligner, donc c'est pour ça que c'est quand même la molécule. Pour moi, d'un point de vue arsenal thérapeutique, c'est l'une des molécules, si ce n'est la molécule la plus efficace pour le traitement de la douleur. Mais dans certains contextes, effectivement, et malheureusement pour certains patients, je dirais, la morphine a moins d'effet anti-douleur, analgésique, comme on appelle. Et donc, à ce moment-là, on va commencer à avoir des problèmes liés à la prescription de ces molécules-là.
Et est-ce qu'il existe des alternatives, justement, aussi efficaces que ces médicaments?
Voilà, ça c'est une très bonne question, et c'est vrai que pour l'instant on n'a pas grand chose de mieux, on va dire, que les morphiniques, hein. C'est une grande classe de molécules, et c'est vrai qu'il y a d'autres alternatives, mais on va dire que pour avoir une efficacité aussi importante que la morphine, on n'a quand même pas de molécules aussi efficaces d'un point de vue thérapeutique.
Alors vous l'avez cité dans la liste des effets secondaires, vous avez parlé d'hyperalgésie, vous écrivez dans la publication hyperalgésie paradoxale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et en quoi c'est paradoxal?
Alors effectivement, c'était un terme qui avait été utilisé par les anglo-saxons à l'époque. Ça a toujours été ma thématique de recherche depuis de nombreuses années. Et en fait, on considère que c'est paradoxal parce que ce qu'on attend avec la morphine, c'est justement un effet antidouleur et non pas l'inverse. Et effectivement, chez certains patients, encore une fois, pas tout le monde, mais de manière paradoxale, on va avoir, au lieu d'avoir un effet antidouleur, on va avoir un effet qui va augmenter la douleur, qui va l'exacerber, pardon, c'est ce qu'on appelle donc l'hyperalgésie. Le patient, il prend la morphine, et au lieu d'avoir un soulagement, il va commencer à sentir des effets, on peut appeler des effets secondaires, mais en fait, c'est des effets qui sont vraiment liés à la morphine elle-même et qui vont sensibiliser les systèmes de transmission de l'information douloureuse.
Et vous dites, pas chez tout le monde, on a une idée de la proportion de patients qui sont concernés?
Non, aucune idée. Moi, à ma connaissance, on n'a pas du tout ce retour-là sur qui va répondre de telle ou telle façon à la morphine, donc ça, c'est vraiment une question importante, parce que effectivement, si on peut essayer d'éviter ce genre de phénomène et prédire un petit peu qui va répondre ou ne va pas répondre, mais à ma connaissance, on n'a pas de réponse à cette question pour le moment.
Donc on va rentrer dans les deux gros enjeux de votre travail, donc c'est de réussir à limiter ou à supprimer complètement la tolérance aux opioïdes et cette hyperalgésie dont vous venez de parler. D'autres recherches avant avait déjà montré le rôle déterminant d'un récepteur qui s'appelle MOR. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler un petit peu de ce récepteur et de voir ce qui a été observé chez les souris?
Donc le récepteur MOR, qu'on appelle également le récepteur mu, c'est là où agit globalement les morphiniques. Ils agissent sur d'autres types de récepteurs, mais le récepteur qu'on appelle mu-MOR, c'est l'un des récepteurs les plus importants dans le contrôle et l'inhibition de la transmission de l'information douloureuse. Donc la morphine que l'on va administrer de manière exogène va donc agir sur ce récepteur-là pour fermer la porte, d'accord, et permettre donc d'inhiber la transmission de l'information douloureuse nociceptive.
D'accord, et donc on a une efficacité.
Voilà, exactement. Et donc les résultats dont vous faites référence, c'est un récepteur Donc ce récepteur-là, au niveau du système nerveux, il est exprimé partout, on en a beaucoup, hein, même dans l'organisme, on en a au niveau de l'intestin par exemple. Et donc on sait qu'il est exprimé dans des neurones particuliers qui sont responsables justement du codage de l'information nociceptive. Et donc dans cette publication, c'est une équipe américaine qui avait publié ça, lorsque l'on retire ce récepteur-là par des stratégies un peu compliquées de biologie moléculaire génétique, mais on arrive à bloquer, à complètement réduire ces effets de tolérance et d'hyperalgésie, tout en préservant, c'était ça qui était intéressant, tout en préservant l'effet analgésique de la morphine. Donc on avait identifié potentiellement des récepteurs exprimés spécifiquement dans certaines structures, dans certains neurones du système nerveux, qui étaient responsables des effets paradoxaux de la morphine.
Et ce qui est intéressant aussi dans cette étude, ce que vous dites dans votre publication, c'est que ça montre qu'il y a deux circuits différents entre l'effet donc, analgésique et ces deux effets qu'on pourrait dire secondaires, tolérance et hyperalgésie. Je vais y arriver.
Exactement. On pense qu'effectivement, en fonction du type de récepteur qui va être, alors du type de circuit, effectivement, on peut plus parler de circuit, on peut avoir effectivement soit l'effet analgésique recherché, et où l'effet paradoxal hyperalgésie et de tolérance associée.
Mais ces deux effets-là qui sont induits, la tolérance et l'hyperalgésie, est-ce que ce sont les mêmes mécanismes qui vont les provoquer? On le sait, ça?
Alors, nous, on pense que le phénomène de tolérance, effectivement, est rattaché au phénomène d'hyperalgésie. Donc, je vais essayer d'être clair pour tout le monde, pour les auditeurs. Ce que l'on pense, c'est que le phénomène d'hyperalgésie va concourir au phénomène de tolérance. Parce que si vous avez un patient qui développe ce phénomène d'hypersensibilité, d'hypersensibilisation à la douleur, donc il va avoir de plus en plus mal. Donc, plus vous allez donner de morphine, et plus il va avoir mal. Et donc, on va avoir une baisse d'efficacité de la morphine. Ce qu'on peut appeler, finalement, du coup, de la tolérance. Mais en fait, c'est pour nous, on pense que c'est vraiment une adaptation finalement de la réponse de l'organisme par rapport à la prise de morphine. Et cette adaptation va s'opposer de plus en plus, si vous voulez, aux effets de la morphine et aux effets analgésiques de la morphine, qui va conduire donc à ce phénomène un peu paradoxal d'hyperalgésie et de tolérance.
Donc finalement, si on agit sur un de ces circuits, ça a des conséquences aussi sur l'autre.
Exactement. Nous, on pense que hyperalgésie et tolérance, on a des mécanismes relativement similaires, et que si on arrive à bloquer ce phénomène d'hyperalgésie, on va également bloquer ce phénomène de tolérance.
Vous parlez d'adaptation, je rajoute. Vous parlez d'adaptation, ça voudrait dire que le corps, il a un intérêt à nous signaler qu'il y a toujours cette douleur, en fait.
Ben quelque part, oui. Ou alors, il faut peut-être plus le voir d'une autre façon, c'est que donner de la morphine à un organisme, ça va perturber ce qu'on appelle tous les équilibres que l'on a internes, et donc l'organisme va se défendre finalement. Prendre un médicament, finalement, c'est une sorte d'agression pour l'organisme, et il va chercher justement à se défendre par rapport à cette agression-là. Parce qu'il faut savoir qu'on est capable de fabriquer de la morphine endogène. On a des molécules endogènes, donc des protéines endogènes qui vont agir sur ces mêmes récepteurs morts. Donc on est capable, globalement, ce que ça veut dire, de gérer aussi notre douleur. On n'aurait potentiellement pas forcément besoin d'avoir de la morphine pour pouvoir contrôler cette douleur.
Alors nous vous avions reçu il y a 2 ans, vous nous aviez expliqué le rôle d'un autre récepteur, le FLT3, pour tyrosine. Bien dit, tyrosine kinase de type FM3, dont l'activation provoque une sensibilité accrue à la douleur dans le cas des douleurs chroniques. Alors cette fois, vous démontrez que ce récepteur, il s'active également quand il y a une exposition longue à la morphine. Il y aurait donc une co-expression entre ce récepteur, sur lequel vous travaillez beaucoup, et le récepteur mort dont on vient de parler.
C'est ça. Donc nous, ce qu'on avait montré initialement, effectivement, dans nos travaux, c'est que ce récepteur, donc FLT3, était impliqué dans les douleurs chroniques, et notamment une forme de douleur qu'on appelle les douleurs neuropathiques, qui sont des lésions du système nerveux périphérique. Et donc ce récepteur-là est exprimé dans les neurones dont j'ai parlé tout à l'heure, et les neurones du système nerveux, donc qu'on appelle les neurones sensoriels, neurones périphériques, et ils vont exprimer également le récepteur mort. Et donc ce qu'on a montré effectivement dans cet article, c'est qu'on avait une co-expression déjà en situation normale, sans traitement chronique à la morphine, et lorsque l'on donnait de manière chronique de la morphine à des animaux, on avait une augmentation de la co-expression des deux récepteurs. Et donc à partir de là, on s'est dit potentiellement il peut y avoir une interaction fonctionnelle entre le récepteur FLT3 et ce récepteur mort qui est impliqué dans les phénomènes d'hyperalgésie de tolérance.
Alors donc vous avez voulu perturber la signalisation via FLT3 pour maintenir le soulagement de la douleur par la morphine, tout en limitant la nécessité d'augmenter les doses et les effets secondaires néfastes, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça, oui.
Et donc pour ça, vous avez étudié les effets de BDT-001, c'est très agent secret, mais c'est un inhibiteur de FLT3. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, cet inhibiteur?
Alors c'est vrai que c'est une molécule, donc avec lequel on avait publié dans notre premier article en 2018 sur la douleur neuropathique. Et donc, c'est un composé qui a une spécificité assez particulière, je dirais, c'est qu'il agit sur le récepteur FLT3, mais il agit sur un domaine particulier du récepteur. Et c'était vraiment c'est la première fois qu'on développait une telle molécule. Alors, il y a plein d'inhibiteurs de ce récepteur-là qui sont disponibles, je dirais, mais ils vont avoir un autre mécanisme d'action. Et du coup, ce mécanisme d'action ne va pas faire forcément une spécificité par rapport à ce récepteur-là. Donc, avec des chimistes, hein, parce que ça se fait avec des gens compétents dont je ne suis pas du tout moi à ce niveau-là, donc avec des chimistes, il y a une stratégie pour développer un autre inhibiteur et qui va agir sur un autre domaine du récepteur FLT3 qui va être beaucoup plus spécifique de ce récepteur-là. Et donc, on pense que le BDT est une molécule plus spécifique par rapport aux autres inhibiteurs qui existent déjà sur le marché.
Tout en maintenant le même niveau d'analgésie.
Vous avez donc c'est ça en fait, la stratégie c'est de se dire, puisque FLT3 est impliqué dans les phénomènes de tolérance et d'hyperalgésie, si on le bloque, on va bloquer ces phénomènes de tolérance et d'hyperalgésie et donc on va améliorer les effets analgésiques de la morphine.
Donc oui, c'est ça, c'est que vous vous rendez compte qu'en plus avec BDT-001, vous arrivez tout en gardant le même effet à baisser donc les doses. Vous les baissez de combien à peu près ?
Donc ça, effectivement, c'est cette histoire de se dire, ok, on a un phénomène de tolérance et d'hyperalgésie, donc qui va conduire à cette baisse de l'efficacité de la morphine. Donc si on a une stratégie qui nous permet de bloquer ce phénomène de tolérance d'hyperalgésie, on va donc avoir une potentialisation de l'effet de la morphine. Et donc on peut peut-être travailler avec des doses plus faibles pour avoir la même efficacité analgésique et donc réduire les effets secondaires. Et donc on estime, nous, alors ce qu'on a fait sur le modèle animal, mais on estime à peu près avoir une augmentation de 30% de l'efficacité de la morphine.
Donc c'est double victoire en fait. Non seulement vous bloquez donc ces effets négatifs, mais en plus on diminue la dose.
C'est ça, ouais. Exactement.
Alors, vous avez aussi mené un autre type d'expérience pour évaluer cette fois les effets curatifs du BDT-001 sur la tolérance et l'hyperalgésie. Ça consistait en quoi ? C'était quoi votre objectif ?
Donc l'objectif était de se rapprocher un petit peu plus de la clinique, c'est-à-dire de mimer quelque part un patient qui va être douloureux chronique, qui va être traité avec de la morphine et qui va développer ce phénomène de tolérance et d'hyperalgésie. Et donc la stratégie, c'était de se dire, est-ce que finalement, une fois que cette tolérance et hyperalgésie est installée, est-ce qu'on est capable finalement de, ce qu'on appelle, alors c'est un anglicisme, mais de réverser donc le phénomène. Et donc c'est pour ça que une fois qu'on a eu ce phénomène-là de tolérance et d'hyperalgésie, on a donné l'inhibiteur de FLT3 et on a pu effectivement restaurer une efficacité de la morphine, alors que dans les situations contrôle sans l'inhibiteur de FLT3, la morphine n'avait plus aucun effet en fait. C'était comme si on donnait du sérum physiologique, du placebo finalement à nos animaux. Donc la combinaison de ce BDT avec la morphine permet de restaurer cet effet analgésique et donc de bloquer tolérance et hyperalgésie.
Alors, donc vous venez de le dire, vous avez pour l'instant travaillé essentiellement sur des animaux, sur des rongeurs. Est-ce que des essais cliniques sur l'homme sont prévus bientôt ?
Donc, effectivement, c'est toujours la poursuite et puis un petit peu la finalité de ces études-là. Donc, nous, on travaille avec une société qui est une société locale, qui a été créé suite à la découverte du récepteur FLT3 dans la douleur neuropathique. Donc on travaille toujours avec cette société-là qui a développé un candidat médicament, alors qui n'est pas le BDT-001, mais qui est un de ses cousins. Et donc ce composé-là va rentrer en phase clinique, en phase 1, logiquement, à l'heure où je vous parle, qui devrait rentrer d'ici la fin de l'année 2024, donc ça c'est très proche, ou en tout cas début d'année 2025, pour voir un petit peu les effets secondaires, on va dire, les effets toxiques chez l'homme, et potentiellement avoir une étude d'application en phase 2, on espère en 2026, sur justement voir un petit peu les effets sur l'épargne morphinique, comme on l'appelle, c'est-à-dire de voir si on peut améliorer l'efficacité morphinique chez des patients, et notamment en condition de douleur chirurgicale. Voilà, donc peut-être que je reviendrai une nouvelle fois pour la
et
suite.
Et on vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces explications.
Merci à vous.
On passe maintenant à notre séquence reportage. Pour rester dans le thème, comme on le disait, on vous emmène sur la plateforme SymBio 3.
Oui, c'est une plateforme donc rattachée à l'Institut des biomolécules Max Mousseron. Et c'est Pascal Verdier qui nous explique comment lui et ses collègues du plateau Peptide synthétisent des biomolécules et des polymères d'intérêt biologique et pharmaceutique.
Donc moi je m'appelle Pascal Verdier, je suis ingénieur de recherche en synthèse chimique. Et donc je m'occupe d'une plateforme qui s'appelle SymBio 3, qui est spécialisée dans la synthèse de biomolécules, de biopolymères pour la biologie. On va faire des petites protéines et des polymères pour la santé, toujours avec une visée pour la biologie. Moi, ce que je fais, c'est des peptides. Les peptides, c'est des petites protéines. Donc, en fait, au niveau du corps humain, on a de nombreuses protéines qui interviennent dans énormément de processus. Et donc, nous, on va fabriquer des petits morceaux et tester leur activité.
Et comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un peptide ?
Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Nous, on a des méthodes optimisées. On a notamment ce qu'on appelle des automates de synthèse. Donc, on va pouvoir... Un peptide, en fait, ce sont des enchaînements d'acides aminés. Donc, on en a 20. C'est comme des perles. On va monter des colliers de perles avec un automate qui nous permet de faire ça de façon automatique.
Et alors, l'automate, est-ce que c'est la machine en question qui est derrière vous ?
Alors exactement, c'est une machine en fait qui va nous permettre de préparer, donc nous on commence avec des réactifs qu'on va mettre en solution et ensuite qui vont être ajoutés un à un sur une matrice polymérique jusqu'à arriver à avoir la séquence peptidique en entier. On va travailler avec sous micro-ondes qui nous permet de chauffer en fait. On a des cinétiques de réaction qui sont beaucoup plus rapides et qui nous permettent, alors avant on faisait des peptides en une semaine, maintenant en quelques heures on peut obtenir un peptide. Donc le processus est assez rapide, à la fin de quoi on va séparer notre peptide de la résine polymérique, on va l'obtenir en solution, on va l'analyser par chromatographie, couplée à la spectrométrie de masse, et si on a la bonne séquence, la bonne masse, on va le purifier, et ensuite on va récupérer une poudre par lyophilisation qu'on pourra donner à nos collègues biologistes.
Et la machine, je la décris un peu, là on a trois rangées de tubes, avec 10 tubes par rangée, enfin 27 tubes en tout, parce qu'en dessous on a deux bouteilles. Qu'est-ce qui se passe dans ces tubes justement ?
Alors dans ces tubes, les 20 tubes que vous voyez, c'est 20 acides aminés, ce qu'on appelle protéogéniques, c'est les 20 acides aminés naturels que l'on trouve dans le corps humain. Et donc ils s'appellent alanine, arginine, proline, et donc voilà, on va les monter les uns après les autres pour avoir des séquences de petites protéines.
Et du coup, la fameuse poudre dont vous parliez tout à l'heure, c'est celle qui contient les peptides après la synthèse ?
Exactement, c'est ça. On va au final avoir une poudre qu'on va mettre en solution dans l'eau, souvent, généralement, pour pouvoir tester.
Et alors, en termes d'application, vous m'avez parlé un peu de la santé. Vous pouvez me donner quelques exemples d'applications plus précises ?
Il y a énormément d'applications. On travaille avec des gens qui sont à l'Institut de génétique humaine. Ils font des recherches sur les récepteurs de protéines. Donc nous, on va faire des petits morceaux de protéines pour voir comment ça interagit. On a d'autres projets avec des industriels où on va travailler sur des maladies rares, par exemple, aussi. Souvent, il y a une mutation génétique, une délétion de protéines au niveau du corps humain. Et nous, on va essayer de la synthétiser, de remplacer ce petit fragment de protéines qui est délété.
Là, on rentre dans une deuxième pièce. Là, on a une machine avec, pour le coup, plein de tubes, de tuyaux et d'éléments métalliques. À quoi elle sert, celle-là ?
Donc là, on a un collègue sur la plateforme qui s'occupe de la synthèse à monter en échelle. Donc, au niveau recherche, en fait, on fait des produits à l'échelle du milligramme. C'est pour faire des tests préliminaires in vitro. Quand on doit passer sur la plus grosse échelle, c'est-à-dire avoir des grammes de produits, il faut quelqu'un de spécialisé. Donc lui, il est spécialisé dans tout ce qui est synthèse et tout ce qui est purification. Donc l'appareil qu'on voit là, c'est un appareil de chromatographie liquide en phase inverse. Préparatif qui nous permet d'injecter sur des colonnes. Alors tout l'appareil, en fait, c'est des pompes. Hein, les pompes qui vont permettre de pomper des solvants aqueux et organiques, passer au travers d'une phase de silice et de séparer les composants. Et l'idée, c'est de récupérer à la fin les produits sous forme isolée. Donc, soit on purifie des produits de synthèse, soit on a aussi des collaborations avec des gens du CIRAD pour purifier des extraits de graines de café, donc des produits naturels, et essayer de détecter, d'isoler des nouvelles molécules.
Et par exemple, là, c'est des commandes, c'est des gens qui peuvent vous dire « je voudrais synthétiser tel peptide ou isoler telle molécule » ou vous participez à des projets de recherche avec eux ?
On fait les deux. Alors, on travaille beaucoup avec des collègues de l'Institut en recherche, mais on a pas mal de clients de l'université qui sont extérieurs, qui sont pas du tout de notre domaine. Et oui, on travaille à la commande, soit de synthèse, soit de justement que de purification, c'est possible.
Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes, Florian Bergon, pardon, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec plaisir, vous êtes chargé de projet au service en diversité et vous nous présentez aujourd'hui une conférence qui se tiendra le 21 novembre sur le campus Triolet entre 12h15 et 13h30 sur le thème régime restrictif, quelles conséquences et comment les aborder. C'est bien ça, j'ai tout bon ?
C'est bien ça, c'est parfaitement résumé.
Alors on commence bien. La conférence, elle va être donnée par le docteur Jean-Baptiste Bonnet. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce conférencier ?
Oui, tout à fait. Il est chef de clinique au CHU de Montpellier et plus précisément du service nutrition de diabète du professeur Ariane Sultan.
Merci. Donc cette conférence, elle est ouverte à tous. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour y accéder ?
Non, pas particulièrement. S'il y a des demandes spécifiques relatives en termes d'accessibilité, on peut toujours nous écrire à handicap@umontpellier.fr. Mais c'est une conférence, ouverte à tout public, voilà, pour des personnes internes ou externes à l'Université de Montpellier.
Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait encore des inscriptions, donc il faut se dépêcher, c'est ça, si on est intéressé.
C'est ça, puisque la conférence aura lieu jeudi. Demain, ce qui fait que effectivement, il faut se dépêcher et s'inscrire via le formulaire d'inscription qui a été communiqué par mail dans une invitation officielle envoyée par l'Université de Montpellier le 13 novembre de 2024.
Et nous, on le mettra en lien sur la page de l'émission également pour que les auditeurs puissent le trouver plus facilement. Alors on va rentrer un peu dans le thème de cette conférence. Pourquoi avoir choisi ce thème régime restrictif ? Quelles conséquences et comment les aborder ?
Alors, tout d'abord, il faut savoir que cette conférence a lieu dans le cadre de la 28e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui est une semaine nationale de sensibilisation à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et à cette occasion, il nous paraissait important au sein du service en diversité de dédier un temps de présentation et d'échange autour de situations de handicap qui peuvent survenir en cours de carrière et qui demandent des aménagements spécifiques, des conditions de travail. Et c'est également une conférence qui est organisée dans le cadre du schéma directeur handicap de l'Université de Montpellier. C'est un schéma qui témoigne d'une volonté politique forte, celle de favoriser l'inclusion des étudiants et personnels en situation de handicap. Et pour ce faire, le service en diversité, donc de la direction Vie des Campus à laquelle j'appartiens, met en place des événements de sensibilisation qui abordent différents axes du handicap. Et pour cette conférence, on a voulu mettre l'accent plus particulièrement sur les maladies digestives chroniques qui touchent un certain nombre d'agents, accompagnés par le bureau en charge de suivi des personnels en situation de handicap de l'Université de Montpellier. Et au regard de son champ de compétences et domaine d'expertise, Monsieur Bonnet, le docteur Jean-Baptiste Bonnet, va dans un premier temps discuter de ce sujet en commençant par définir culturellement et socialement l'acte de manger. Il va ensuite présenter les divers troubles du comportement alimentaire associés et expliquer leurs origines, leurs causes et leurs conséquences. Et il se concentrera enfin sur la question des régimes dans le but de les mettre en lien avec les maladies digestives connues médicalement et de déterminer leurs principes, leurs impacts et leurs éventuels bénéfices pour les personnes qui sont concernées par celles-ci.
Très bien. Vous avez déjà eu des retours. Vous savez si beaucoup de personnes sont concernées justement par ces problématiques ?
Au niveau de la conférence, on est déjà à 124 inscrits, donc ce qui permet, on se dit qu'il y a quand même un intérêt, que c'est un sujet qui suscite de la curiosité. On ne sait pas pour le moment si aucun agent ne s'est manifesté aucun agent accompagné par le service en diversité ne s'est manifesté pour dire voilà qu'ils allaient participer à la conférence, mais on espère fortement qu'ils auront été sensibles à cette invitation et au fait qu'on fasse une focalisation sur ce sujet-là à l'occasion du coup de cette conférence handicap cette semaine.
Merci beaucoup Florian Bergon. Alors je rappelle, donc la conférence a lieu le 21 novembre sur le campus Triolet entre 12h15 et 13h30. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Et on pense à s'inscrire avant.
Voilà, on pense à s'inscrire avant et puis à arriver effectivement un petit quart d'heure à l'avance, le temps de pouvoir s'installer et prendre place tranquillement voilà, dans l'amphithéâtre. Et commencer ainsi à l'heure.
Et c'est super. Merci beaucoup et à bientôt, Florian Bergon.
Merci à vous beaucoup. Bonne journée.
Au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. C'était sa dernière, tu nous manqueras. À la semaine prochaine et d'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.